Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette émission débat Patara de Radio Ndekeloka consacrée aujourd'hui aux rencontres des groupes armés à Khartoum et à Boire et dont plusieurs revendications ont été consolidées parmi lesquelles l'amnistie des auteurs de crimes en Centrafrique. En effet, lors de la rencontre qui s'est tenue fin août à Boire, chef-lieu de la Nanamambiré, les représentants des 14 groupes armés et le panel des facilitateurs de l'Union africaine ont harmonisé leurs différentes revendications dans un document. 104 revendications au total, contenues dans un document qui doit être remis au gouvernement pour servir de cadre de négociation pour le dialogue dont la date n'est pas encore fixée. 5 points ont cependant été mis en réserve par l'Union africaine, dont l'amnistie générale réclamée par les groupes armés. Cette idée d'amnistie a été déjà rejetée par plusieurs ONG de droits de l'homme, par les autorités de Bangui, ainsi que par une partie de la population. Dans la même période, à l'initiative de la Fédération de la Russie et du Soudan, les principaux chefs rebelles actifs dans le pays ont signé mardi 28 août une déclaration d'entente à Khartoum, capitale soudanaise. Un cadre qui a également permis la création d'une plateforme dénommée Rassemblement Centrafricain en abrégé RCA et qui regroupe le FPRC de Nouredine Adam, le MPC de Mamatal Katim, l'EPC de Ali Darassa et le mouvement anti-Balaka El Maximocom. À l'issue des travaux, une dizaine d'engagements ont été pris, notamment le respect des droits de l'homme, la protection de la population civile, la facilitation de la libre circulation des personnes et de leurs biens, la sauvegarde de l'intégrité territoriale ainsi que la souveraineté du pays. La participation et l'implication de la Fédération de Russie, du Soudan, du Tchad, du Congo, de la RD Congo, du Cameroun, nos pays partageant la frontière avec la RCA, ont été recommandés par les parties signataires. Depuis lors, des voix s'élèvent au sein de la classe politique centrafricaine pour approuver ou désavouer les recommandations formulées par les acteurs concernés. C'est le cas du CLPS, le Conseil des leaders politiques et sociaux, qui regroupe 12 partis politiques et 2 organisations de la société civile. Pour cette plateforme politique, les revendications posées par ces groupes armés sont une violation de la légitimité des nouvelles autorités politiques, mais aussi une prime à l'impunité. Cependant, ces rencontres ont eu un écho favorable auprès du PUR, Parti de l'Unité et de la Réconciliation, même si son leader pose un bémol. Le PUR, qui dit avoir pris acte des déclarations et des revendications issues de ces différentes rencontres de Boire et de Khartoum, exige cependant des chefs de guerre le respect de leur engagement et appelle à la vigilance des dirigeants centrafricains. Question, la solution à la crise centrafricaine passera-t-elle par ces diverses rencontres organisées ça et là avec les leaders de groupes armés? L'amnistie est-elle une solution envisageable à cette longue crise? Quid alors des recommandations du forum de Bangui qui y oppose une fin de non-recevoir? Pour en parler chacun aujourd'hui autour de la table, M. Jean-Serge Wafio, président du PDCA, coordonnateur du Conseil des leaders politiques et sociaux, en abrégé CLPS. M. Jean-Serge Wafio, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et à tous ceux qui sont sur le plateau.
M. Christian Guenebem, secrétaire national aux relations extérieures et porte-parole du parti KNK. M. Christian Guenebem, bonjour.
Bonjour, bonjour aux auditeurs et aux co-débatteurs.
Dr. Dominique Désiré Irène, ancien chercheur à l'Université de Bangui. Il est constitutionnaliste, Dr. Dominique Désiré Irénon. Bonjour.
Bonjour Hippolyte, bonjour chers amis débatteurs, bonjour à tous les auditeurs de Radio Ndekeluga.
Et Maître Fernand Sylvie Omane Diapou, coordonnateur de la coalition pour la Cour pénale spéciale et leader de la société civile. Maître Fernand Sylvie Omane Diapou, bonjour.
Bonjour Hippolyte et bonjour également à tous nos auditeurs.
À la technique, il s'appelle Herman Ambona. Au micro, je suis Hippolyte Marbois.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Première question à vous, M. Jean-Serge Wafio. Deux rencontres, deux initiatives des groupes armés tenues fin août respectivement à Boire et à Khartoum. Que vous inspirent ces deux initiatives à sortir des recommandations chacune?
Merci, M. Hippolyte. Si vous permettez, je vais relever quelque chose parce qu'il y a sur le troisième paragraphe de la première page, on a mis Rassemblement Centrafricain en abrégé RCA. RCA, c'est République Centrafricaine. Ça fait partie des symbole de l'État, tout comme l'armoirie de l'État, et ça ne devrait pas être utilisé par n'importe qui. Donc ça, il faudrait le relever avec force. Il ne faudrait pas qu'on utilise le symbole de l'État pour des activités qui ne cadrent pas avec la République centrafricaine. Il y a déjà ça qu'il faudrait relever. Bon, s'il faudrait parler de rencontres, de discussions, de débats ou de fora, parce qu'on a tellement tenu dans ce pays, ce serait la bienvenue à condition que ça ne soit pas un autre compromis de façade. Parce que nous avons tellement été habitués à des compromis de façade et surtout à des rencontres entre les pouvoirs publics et les groupes armés qui ont toujours accouché d'une souris. Alors les deux rencontres, et encore concomitantes à un moment où les Centrafricains s'interrogent, à un moment où l'opinion populaire nationale fait l'option pour un dialogue inclusif et on continue avec le dialogue exclusif. Peut-être il y a des raisons que nous, en tant que profanes ou en tant que n'étant pas au sommet de l'État, que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas. Il y a des raisons certainement qui amènent les autorités politiques ou ces groupes armés à ce sommet exclusif et que je pourrais dire en apartheid. Mais ce qui est intéressant pour nous maintenant, ce n'est plus question de discuter ou de rencontrer le groupe armé, mais c'est de voir qui sont derrière ce groupe armé.
Et vous pensez que ce sera un challenge difficile à relever, qui sont derrière ces groupes armés? Cette question elle a toujours été posée, mais personne, la force n'a jamais été révélée jusque-là.
Bon, mais c'est à nous, Centrafricains, de nous poser la vraie et bonne question pour avoir les vraies et bonnes réponses.
Tout à fait.
Il ne serait plus question de tabou. Nous devrons nous regarder en face et nous dire la vérité, même les creux, celles qui fâchent, nous devrons être en mesure et avoir la force morale et politique de nous les dire.
Il faut que cela arrive un jour. Merci, M. Jean-Serge Wafio. M. Christian Guenebem, deux rencontres, nous l'avons dit, se sont respectivement tenues à Poirier et à Khartoum. Une à l'initiative de l'Union africaine, une autre à l'initiative d'un pays, désormais ami de la RCA. J'entends la Russie d'un autre pays également, l'État du Soudan. Alors, comment vous avez apprécié ces deux rencontres-là de 9 août?
Je crois que, pour vous dire les choses franchement, au départ, il y a eu quand même une sorte de confusion, aussi bien dans mon esprit que dans celui de beaucoup de Centrafricains. Il y avait le sentiment d'une certaine cacophonie, puisque lorsque la feuille de route de l'Union africaine a été adopté à Libreville au mois de juillet 2017. Il a été convenu par tous les signataires de cette feuille de route, y compris le gouvernement centrafricain par le biais du ministre des Affaires étrangères, que l'initiative africaine devenait la seule et unique initiative dans laquelle on avait fondu le reste, que ce soit l'initiative parlementaire, que ce soit les discussions de Santé Didio et j'en passe. Et donc pour nous, lorsque nous avons appris d'abord qu'une première rencontre avait été avortée à Khartoum et que finalement la deuxième s'est tenue en même temps, de manière concomitante, le même jour, avec les mêmes parties concernées, notamment d'un côté Boire, de l'autre côté Khartoum, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Ça c'était le sentiment premier. Et après, à la lecture des conclusions de ce que il convient, semble-t-il dorénavant, d'appeler l'entente de Khartoum, à la lecture des conclusions de l'entente de Khartoum, dans un premier temps, nous avons pris acte de ce contenu, mais aussi nous nous sommes quelque peu apaisés, quelque peu rassurés lorsque le leadership de l'initiative africaine a été réaffirmé, mais qu'il a été demandé un élargissement à certains acteurs, notamment la Fédération de Russie, qui aujourd'hui, nous le voyons bien, est en train de jouer un rôle prépondérant dans les questions de sécurité en République centrafricaine. Et le dialogue avec les groupes armés, à mon sens, entre dans cette dimension de la sécurité. Le seul,
Beaucoup plus politique, cela déjà, nous rentrons dans le dialogue, nous
c'est
le terrain politique.
Non, parce qu'en réalité, vous savez, lorsqu'on veut aller au dialogue, on cherche à créer les conditions du dialogue. Et aujourd'hui, c'est dire que nous ne pouvons pas aller au dialogue pendant que les armes tonnent, pendant que les balles sifflent et pendant que les Centrafricains continuent de mourir. Donc je crois que là, il y a déjà une question de sécurité qui est la cessation des hostilités, l'arrêt effectif des combats avant le dialogue. Je pense pour ma part que l'initiative de Khartoum, je l'arrange beaucoup plus dans cette catégorie, c'est-à-dire créer les conditions pour un dialogue, mais en l'élargissant à d'autres partenaires, en l'élargissant à d'autres observateurs, à d'autres parrains, si on peut le dire ainsi. C'est ce que nous observons. Après, dire que l'initiative est bonne ou mauvaise, c'est le résultat
qui en déterminera
le bien fondé ou non. Mais je ne vous cache pas qu'au départ, nous avons vu cela avec une certaine inquiétude et qu'aujourd'hui, nous sommes dans la position d'attentisme et de nous dire « attendons de voir ce que ça va donner ».
D'accord. Merci, M. Christian Guenebem. Maître Fernand Sylvoumane Diapou, la rencontre de Khartoum, elle s'est tenue. Combien même dans ce passé récent, la présidence centrafricaine était réticente pour dire que tant que l'initiative africaine n'aboutisse pas, il est hors de question d'enclencher une autre démarche, un autre regroupement,
une autre rencontre visant à aboutir à la paix. Mais alors, est-ce qu'il y a des en dessous à cette rencontre de Khartoum, selon
vous? Bon, je ne sais pas. Moi, j'aimerais savoir qui a initié cette rencontre de Khartoum.
De Khartoum, ben, ça a été clair. Hein, c'est
non,
la Fédération
c'est
de la
déjà,
Russie
on dit, dans la feuille de route. Il y a une confusion dans la feuille de route, en dehors de là. Le juillet 2017, il ne faut pas d'autres initiatives en dehors. Et les représentants de l'État ont signé. C'est ça le problème. Ils ont signé pour dire, en dehors de cela, oui, ministre Charles Armel Duzban, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Centrafricains à l'étranger, République Centrafricaine, il l'a signé pour dire, en dehors de ça, il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres initiatives. Moi, je suis là, je suis de la société civile. Je veux, il faut éclaircir le peuple. Il faut qu'on se dise la vérité sur ce micro-là. Vu que, dans les revendications des rebelles, ils ont attaqué aussi les formes de l'État. Il faut qu'on se dise la vérité. Maintenant, il faut voir certains points, les 12 points de revendication des rebelles, mon frère. Ces 12 points-là, c'est dur. Et là, lorsque sur certains points, ils ont dit la consultation des groupes armés pour le choix d'un premier ministre, ainsi de suite, d'autres choses. Donc, vous comprenez bien, sur ces points, les revendications sont fortes. Ces 12 non négociables, c'est très fort. Le pouvoir en place s'est rendu compte que si je continue avec l'initiative de l'Union africaine là, c'est un danger. Il faut voir avec mes amis les Russes pour qu'ils viennent en secours. Et les Russes ont initié d'autres initiatives pour leur dire, méfiez-vous. Et nous voulons la paix, il faut aller à la paix. Parce qu'il y a les en-dessous de ce truc de Khartoum, on ne nous a pas dit. Nous, on est au courant. Donc les en-dessous de Khartoum aussi, il y a aussi une partie, c'est des menaces aussi. Pour leur dire, méfiez-vous. Si vous ne faites pas bien, si vous ne respectez pas vos revendications, nous allons nous lever. Aujourd'hui, il faudrait que nous, peuple centrafricain, nous soyons vigilants.
Les menaces, c'est de quel côté,
c'est pas pour rien que la Russie a pu intervenir pour aller. Parce que c'est en violation de la feuille de route. Et moi, en tant que société civile, on est en train de se concerter pour que nous demandons l'avis de la Cour constitutionnelle. Est-ce que l'initiative de la feuille de route de l'Union africaine est conforme à notre constitution? Je pense d'ici peu, nous allons saisir la Cour constitutionnelle centrafricaine pour demander leur position par rapport à la constitution. Ils doivent se prononcer là-dessus. Parce qu'on ne peut pas prendre des initiatives et puis on abandonne notre État comme ça. On néglige nos institutions. Non, nous, je pense que d'ici peu, nous l'annonçons déjà, on va toujours le faire, saisir nos institutions de la République.
C'est une bonne initiative. L'Union africaine ne s'est pas encore positionnée. Les revendications ont été consolidées dans un document et les négociations ne sont pas encore ouvertes. Est-ce que la démarche de la société civile n'est-elle pas, j'allais dire, mettre la charrue avant les bœufs?
La feuille de route est déjà là, ça a été signé depuis 2017. Il y a déjà une feuille de route et on essaie de voir cette initiative. Est-ce que déjà, cette feuille de route est-elle conforme à la Constitution? C'est important. Déjà, dans les différentes revendications, vous savez, ça a été dur. Et moi, je me suis dit, il faudrait que nous ayons confiance aussi au Parlement centrafricain, à nos députés. Il faudrait ramener ces revendications, ça passe sous fin des députés. Que les gens écoutent, que le peuple écoute, qu'on informe le peuple. C'est comme si les gens cachent les choses. C'est entre groupes armés, Union africaine, gouvernement. Vous savez, ça, c'est pas normal. Il faut qu'on informe le peuple. C'est le peuple qui est souverain. On doit informer le peuple, on donne les informations au peuple. Bon, pour moi, déjà, pour l'initiative de Khartoum. L'initiative de Khartoum, ça a été fait par la Russie. Je pense qu'il y a des en-dessous.
Et
moi, il y a beaucoup d'en-dessous là-dessus. Et le Soudan, pour dire vraiment, il faut trouver une solution. Et c'est pas pour la première fois qu'il y ait l'initiative de l'Union africaine en RCA. C'est pas pour la première fois. Et plusieurs fois, certaines initiatives ont échoué parce que c'est pas bien ficelé. Donc, il faut également l'appui de certains pays amis, comme la Russie, pour voir comment nous pouvons faire. Mais moi, je me suis dit, dans ces revendications, quelle est la coercition qui est dedans s'ils ne respectent pas les revendications? Parce que ces rebelles, il faut jamais leur faire confiance. Ils ont l'habitude de ne jamais respecter.
Justement, nous allons revenir
jamais là-dessus.
Nous allons revenir sur la sincérité ou non de ces accords-là. Voilà. Ou adopté par ces groupes rebelles, soit à Aboua ou encore à Khartoum. Docteur Dominique Désiré Renaud, on sait que la rencontre de Khartoum s'est tenue, je viens de le dire, et cela sous la bénédiction de la Russie et du Soudan. Initialement, on nous faisait entendre que c'était une rencontre entre les leaders de groupes armés et le gouvernement centrafricain. Malheureusement, à Khartoum, la partie centrafricaine était absente. Il n'y avait que les groupes armés. Tout découle cette entente, dite entente de Khartoum. Et dont les signataires n'étaient que les quatre leaders des groupes armés présents. La question que j'allais vous poser, comment vous voyez le rôle que la Russie joue à ce niveau politique? Moi, j'appelle niveau politique, mais que Christian Guenibem lui rappelle, bon, c'est encore juste que des préparations au dialogue, encore un terrain qu'il faut préparer et pour aller à ce dialogue. Voyez-vous l'implication de la Russie quand on voit qu'initialement, il n'y avait pas une autre démarche que celle de l'Union africaine?
Merci Hippolyte. De mon point de vue, j'ai comme sentiment que le processus de paix et de réconciliation en République centrafricaine est en quelque sorte cacophonique, et je dirais même labyrinthique. Cacophonique et labyrinthique. Parce que qu'il s'agisse de Boire, qu'il s'agisse de Khartoum, en fait, ça renvoie au processus de paix et de réconciliation qui a été enclenché depuis les dernières élections. Le président de la République, le gouvernement se sont inscrits dans cette logique-là de la recherche de la paix. Mais on constate que le processus aujourd'hui, tel qu'il est mené, tel qu'il est conduit, son contenu également, nous fait penser qu'on est en face d'un processus qui est, je dirais, cacophonique et labyrinthique. Pourquoi ? Nous avons eu l'initiative africaine qui s'est soldée par l'adoption d'une feuille de route pour la paix et la réconciliation en RCA. Ça a été adopté le 17 juillet 2017. Nous avons eu l'initiative de Sant'Egidio, accord pour la paix en RCA, 19 juin 2017. La déclaration d'entente de Khartoum des groupes armés, 28 août. Ensuite, accord entre les groupes armés à Boire, 30 août 2018. Aujourd'hui, le processus de paix et de réconciliation centrafricaine est conduit par une diversité d'acteurs. Il y a plusieurs initiatives, il y a plusieurs acteurs, il y a plusieurs accords et on s'y perd. On s'y perd. Le leadership de l'Union africaine aujourd'hui, à mon avis, pose problème. Parce que la paix en République centrafricaine, c'est une question nationale, c'est une question sociale, c'est une exigence de la société centrafricaine, c'est une exigence de la nation centrafricaine, la paix, la réconciliation nationale. Ce sont des questions nationales, ce sont des exigences nationales. Et si on reste dans cette logique-là, le leadership en matière de recherche de la paix et de la réconciliation nationale devrait revenir de droit à qui ? À notre gouvernement, au président de la République et au gouvernement. Je ne l'invente pas, c'est l'article 33 de la Constitution du 30 mars 2016 qui accorde un leadership politique. Pour toutes les questions politiques, le leadership politique est confié par la Constitution à nos autorités. Principalement le président de la République, le gouvernement, le Premier ministre, etc. Et l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, on constate que c'est l'Union africaine a caporalisé en quelque sorte le processus de paix et de réconciliation en Centrafrique. Et les Centrafricains, en fait, sont en train d'assister à quelque chose qui est concocté à l'extérieur et qui va leur être imposé de l'intérieur. Est-ce qu'il s'agit d'une paix pour les Centrafricains ? Est-ce qu'il s'agit d'une paix pour des étrangers ? Je ne comprends pas.
Mais je doute que ce soit vraiment juste ce que vous dites, parce que quand on écoute l'Union africaine, ils ont dit que c'est à la demande de l'État centrafricain qu'ils se sont saisis de cette initiative pour pouvoir mener les pourparlers.
Ben, si c'est à la demande.
Les représentants de l'État centrafricain siègent au panel des facilitateurs.
Oui, mais en fait, je sais que le ministre Achard Lamed Doumane, il a signé la feuille de route de l'Union africaine. Il a aussi signé l'accord de Sant'Egidio. Mais de mon point de vue en tant que centrafricain, eh bien, le leadership devait revenir de droit à l'État centrafricain. L'Union africaine devrait plutôt venir en appui. Et donc, moi, je plaide pour une réappropriation du processus de paix par les Centrafricains. Par les Centrafricains. Vous parlez du rôle de la Russie. Eh bien, la Russie, aujourd'hui, fait partie des acteurs non négligeables du processus de paix et de construction en Centrafrique. Auparavant, il y avait l'Union africaine, il y avait Sant'Egidio, etc., etc. Mais la Russie aujourd'hui est devenue un partenaire important de la République centrafricaine en termes d'aide militaire, en termes de coopération militaire, en matière de défense et de la sécurité du territoire centrafricain.
Et parlant de la Russie, justement, il y a aussi le Soudan. Comment voyez-vous cette arrivée-là du Soudan dans cette crise en Centrafrique, sachant que le Soudan, c'est quand même un pays voisin et c'est des années que la République centrafricaine traverse cette situation difficile. Pourquoi seulement maintenant que le Soudan aussi va accepter maintenant de s'impliquer ? Oui, je vois sur cette question, mais réagir.
Oui, j'aimerais un peu appuyer parce que vous savez, à Kaka Bandoro, c'est plus des Soudanais. Il y a beaucoup de Soudanais que Abdoulaye Hissène a amené aux yeux au sud de ses partenaires. Vous savez, c'est pas normal. Ce sont des complices. C'est là où nous devons être prudents. Je reviens de Kaka Bandoro avec le préfet centrafricain qui était ensemble. Il était ensemble avec moi. On a vu la réalité. Plein de Soudanais, plus que même les éléments rebelles. Donc, vous comprenez l'implication des Soudans aussi. Il faudrait qu'on se méfie. Et nous, en tant que centrafricains, pourquoi en tant que les Soudanais ne peuvent pas accepter ? C'est comme le Tchad. C'est comme le Tchad aussi. Ces deux pays-là, je pense qu'ils ont trouvé l'huile et le miel. En République centrafricaine, les gens en profitent. Mais avec nos autorités, c'est pour ça que je dis que c'est important d'informer toujours la population que nous soyons prudents. Parce que le malheur de nos peuples, ça vient d'eux. Ça vient de ces Soudanais. Allez, vérifiez seulement. Faites un tour seulement à Kaka Bandoro. Vous voyez combien on a ramassé ces djihadistes, ces mercenaires soudanais. Plein sont là. Et aux yeux, au-dessus de tout le monde, même nos autorités sont au courant. Même la MINUSCA, les gens sont au courant. Donc vous voyez la situation du peuple. Le peuple centrafricain, il faudrait que le ministre même des Affaires étrangères puisse demander quelle est la situation de ces Soudanais qui rentrent à nos frontières, qui traversent les frontières. Il faut aussi les impliquer pour voir comment arrêter leurs gars ou comment renforcer nos frontières pour ne pas à ce que chaque fois c'est le Tchad, le Soudan qui revient ici en RCA pour tuer le peuple centrafricain et après c'est eux qui viennent nous donner des leçons de morale pour qu'il y ait, oui, il y a la paix, oui, il y a... Non, il faut qu'on arrête avec ça.
Oui, je vois sur la même question, il y a...
Oui, moi, il y a quand même un point d'éclaircissement que je trouve très important parce que j'ai constaté, et c'est depuis plus d'une année, la naissance de l'initiative africaine, qu'il y a une mauvaise communication qui est faite autour de ça. Sur plusieurs médias, à plusieurs reprises, moi j'ai plaidé en disant que le président de la République n'avait besoin de personne. C'est-à-dire que lui, il prend son bâton de pèlerin, il invite les protagonistes autour de la table et il tranche les questions avec eux. Mais si lui, il a estimé que la meilleure formule était de passer par la médiation internationale des pays amis ou des organisations auxquelles nous sommes affiliés, c'est son choix à lui, toujours ce leadership sur les questions politiques, rappelé par le docteur Erénon. Et c'est une décision du président de la République. Moi, je vais vous citer la feuille de route, le point 1.3. Il y est écrit que le président Touadéra, dans sa volonté de concrétiser sa première priorité, à savoir le rétablissement de la paix dans tout le pays, a formulé sa sage politique de la main tendue à tous les fils et filles du pays. Il a appelé ses frères africains et les amis de la RCA à soutenir le peuple centrafricain dans cette démarche de recherche de la paix. Il les a appelés. Ils ne sont pas venus. Il les a appelés. Et ça poursuit en disant « C'est en réponse à cet appel et dans l'optique de traduire dans les faits la solidarité africaine avec le gouvernement et le peuple centrafricain qu'est née l'initiative africaine. » Le point 1.7. Le point 1.7 nous dit que le président Touadéra a lancé un appel à la solidarité de la communauté internationale qui s'est encore une fois manifestée à travers la redynamisation des initiatives louables telles que l'initiative africaine. Ça, n'oubliez pas que ce document est signé par notre ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire qu'il apporte le crédit et il certifie la véracité des propos qui sont tenus dans ce document. Le point 1.10. Le point indice va plus loin pour nous dire encore que le président de la RCA souhaite la poursuite et la consolidation. Vous voyez ? La poursuite et la consolidation. Donc ne faisons pas de mauvaise communication pour prêter des intentions aux autres et en pensant qu'ils sont venus ici sans notre avis et ils veulent nous imposer quelque chose, premièrement. Deuxièmement, sur le format même du dialogue. Moi, je suis le coordonnateur du CLPS qui dit ici que tous les acteurs de la communauté nationale, y compris le KNK, réclament un dialogue inclusif. Sauf que ce n'est pas la volonté du gouvernement. Le gouvernement a estimé que notamment le Forum national de Bangui, qui a été un forum qui a rassemblé tous les acteurs et qui n'a pas suffisamment pu apporter de solutions, n'était pas la bonne formule et qu'il fallait un dialogue entre le gouvernement et les groupes armés à l'exclusion de tout autre acteur qui pourrait être présent uniquement comme observateur. En tant que représentant de mon parti politique, j'ai participé à des réunions notamment avec le panel de facilitateurs, notamment avec la MINUSCA, où nous avons exigé l'inclusivité du dialogue. Mais la réponse est que ce n'est pas leur décision à eux, c'est la décision du gouvernement centrafricain qui, encore une fois, rappelons-le ici, a le leadership sur l'initiative. Peut-être que d'aucuns, comme l'ont dit Maître Ndjapou, vont penser que bon, mais les revendications extravagantes des groupes armés font que le gouvernement veut se méfier, veut se prémunir d'un éventuel risque de dépassement lors des débats et donc a initié ou a fait initier la rencontre de Khartoum, encore que cela reste à prouver. Mais la vérité, c'est que personne n'est venu nous imposer quoi que ce soit. Nous sommes bien, et quand je dis nous, c'est pas nous, KNK ou CLPS ou société civile, mais nous en tant qu'État centrafricain. Nous sommes bien à la manœuvre et que tout ce qui est en train de se produire, tout ce qui est en train d'être mené dans le cadre de cette initiative, c'est la volonté du gouvernement. Ça, c'est un point essentiel parce que j'ai constaté que la communication qui est faite autour de ça, c'est comme si on voulait nous faire croire que bon, mais des gens se sont réunis ailleurs, ont réfléchi à notre place et viennent nous imposer un schéma. C'est pas vrai, c'est pas vrai.
Non seulement il y a déficit de communication, il y a aussi mauvaise communication.
Oui, oui, c'est ça.
C'est de ça qu'il parle justement, mais revenons donc sur la rencontre de voir Monsieur le chanceur Joafio. À voir, les groupes armés ont arrêté 104 revendications. Voilà, 104. Tout ce chiffre rationnel, c'est peu, c'est beaucoup, c'est exagéré.
C'est ce qu'on appelle faire de l'obstruction. Empêcher le gouvernement d'agir et d'aller dans un sens unique. C'est comme ça que je perçois les choses. Oui. Et s'il faut parcourir, d'abord en commençant que par les 12 revendications non négligeables, négociables.
Non négociables, oui.
Elles sont anticonstitutionnelles. Elles sont contraires à la Constitution. Ça, non seulement ça à la Constitution, mais aussi aux recommandations du Forum de Bangui. Rappelons-nous les grandes recommandations du Forum de Bangui. L'impunité, zéro. Ils demandent ici l'amnistie. Que ce, je me rappelle, ça doit être l'article 28, je crois, ou autre de la Constitution. Ceux qui ont participé à la rébellion ne peuvent pas occuper les fonctions publiques. Ils réclament un gouvernement d'union nationale. Ils réclament que la primature leur soit donnée. Enfin, soyons conséquents. Soyons sérieux là. Permettez-moi de sourire, mais soyons sérieux. Est-ce que ceux en face, ils sont sérieux? Est-ce qu'ils veulent tout simplement piétiner nos institutions? Est-ce qu'ils veulent tout simplement plonger dans... Excusez-moi les termes, utilisons les mots qu'il faut utiliser. Nous ne nous voilons pas la face.
Oui, je me souviens, n'est-ce pas, de votre déclaration lors de ce point de presse là-haut. Vous dites que ces revendications ne sont qu'une violation de la légitimité des nouvelles autorités politiques, mais aussi une prime à l'impunité, c'est sûr.
Mais ils n'ont aucune légitimité. Ils n'ont aucune légitimité, ces bandits, disons-le comme ça. Ils représentent quelle partie de la population ? Même les zones dans lesquelles ils exercent leur influence, la population souffre. Ce n'est pas dans l'intérêt de la population ce qu'ils sont en train de faire. Maître Ndiapou venait de dire tout à l'heure, il a été à Kagabandoro, c'est plein de Soudanais, c'est plein de Tchadiens. Effectivement, les compatriotes centrafricains et rebelles ne sont que les chefs de ces groupes. Et ces différents groupes, ce sont des mercenaires importés de partout. Non seulement du Soudan, du Tchad, mais aussi du Cameroun, du Niger, du Mali, de Congo, et de l'Ouganda aussi. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. Donc, ils viennent de partout parce que cette crise est devenue un fonds de commerce politique. Et étant un fonds de commerce politique et avec le désordre qu'il y a, bon, ils en profitent. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure Guénébem. Effectivement, la décision, j'ai dit tout à l'heure, non, déficit de communication, mais mauvaise communication, parce que c'est le chef de l'État. Rappelez-vous de son discours du 13 août. Il a été clair. Il a dit, c'est lui qui veut continuer de tendre la main. Et au début, je disais, il y a des informations que nous ne possédons pas en tant que novices, en tant que profanes. Au sommet de l'État, le chef de l'État, certainement, il a des éléments d'appréciation, il a des informations qu'il ne partage pas avec tout le monde. Plusieurs fois, les forces vives de la nation ont demandé à le rencontrer. Mais à chaque rencontre qu'il y a eu, on n'est pas allé au-delà de ce qu'on voulait savoir. Aujourd'hui, le chef de l'État en particulier doit détenir des informations qu'il doit mettre à la disposition du Centrafricain. Qu'est-ce que lui, il veut obtenir de cette rencontre? Il y a déjà ça. Qu'est-ce qu'il veut obtenir de cette rencontre avec le groupe armé? S'il faudrait faire le répertoire ou faire la liste des rencontres qu'il y a eu avec tout le groupe armé, je l'avais dit tantôt, que c'est la montagne qui a accouché d'une souris. Est-ce qu'on va encore accoucher d'une souris cette fois-ci, alors que le Centrafricain continue de mourir tous les jours? Non. Ça, soyons conséquents, soyons responsables, essayons de voir les choses telles qu'elles se posent et non nous voiler la face. Donc, nous interpellons le chef de l'État. Il a des informations qu'il doit mettre à la disposition de toutes les forces vives de la nation pour que nous apprécions, que nous comprenions pourquoi il tient à ce dialogue exclusif.
Justement, nous touchons ainsi au point d'orgue de ce débat, l'épineuse question d'Anmissi. Le président Jean-Serge Wafio l'a évoqué. Déjà, plusieurs voix se sont levées pour s'y opposer. La question pour les chefs rebelles, ils la posent comme voilà, l'un des points non négociables. Sur la question, quel en est votre avis, M. Dominique Désiré Hérénon?
Vous savez, j'aimerais bien revenir un peu sur un point avant d'aborder la question de l'amnistie. Parce que pour moi, le format du processus de paix et de réconciliation en Centrafrique me pose un certain nombre de problèmes. J'ai voulu dire ici que le processus est caporalisé par l'Union africaine. Même si c'est le chef de l'État qui a appelé la communauté internationale à venir à notre chevet. Et ce n'est pas la première fois. Mais moi, je voudrais que ce processus-là soit réapproprié par les Centrafricains. C'est-à-dire qu'en première ligne, on ne devrait pas retrouver l'Union africaine, on devrait plutôt retrouver les autorités nationales. Et à côté des autorités nationales, on devrait maintenant avoir la contribution soit de Saint-Égidou, soit de l'Union africaine, soit du Soudan, soit de la Russie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais vous savez, tout ce qui concourt à la paix, c'est quelque chose de bon. Si votre maison brûle et que les gens veulent vous venir en aide, eh bien, vous devez accepter. Vous devez accepter.
Mais il ne faudrait pas la couleur de l'eau.
Il ne faut pas que les pompiers qui viennent, c'est pas moi, des pays voisins chez nous, puissent chercher à nous engloutir. Parce que nous sommes un État souverain. La paix en République centrafricaine, c'est une question centrafricaine. C'est une question centrafricaine, ça nous concerne, nous, centrafricains. C'est nous qui sommes à l'origine des problèmes qui sont dans notre pays aujourd'hui. Et c'est nous qui devons jouer le rôle de premier plan pour que ces problèmes-là soient résolus. Bon, bref. Maintenant, la question de l'amnistie. La question de l'amnistie, vous savez très bien que personne aujourd'hui ne va accepter qu'il y ait le vote d'une loi d'amnistie dans ce pays. Parce que, tout simplement, les Centrafricains ont subi des atrocités depuis des décennies. Et lors du forum de Bangui, tout le monde était d'accord pour dire que désormais, il n'y aurait plus d'amnistie dans ce pays. On a connu l'amnistie en 1998 suite aux mutineries. On a connu l'amnistie suite à l'arrivée de la rébellion le 15 mars 2003. On a connu l'amnistie en 2008. On a connu, c'est pas moi, des cérémonies de pardon, etc. Mais aujourd'hui, il est temps qu'on tourne la page. de ce que moi j'appelle cette page d'impunité pour que désormais ceux qui s'en prennent à la population civile, vous savez, avant-hier ou hier, c'est pas moi, Bria, malgré tous ces accords qui ont été signés là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a encore massacré des civils. À Bria, qui sont à Bria? Ce sont les groupes armés. Bon, ils sont dans une logique de paix, ils sont dans une logique de réconciliation nationale, mais qu'est-ce qu'on constate en réalité? Il y a des accords qui sont signés ça et là, mais qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'avant-hier ou hier, il y a encore d'autres civils qui sont tombés sous les coups des balles. Et donc l'amnistie aujourd'hui ne peut pas prospérer en République centrafricaine. L'amnistie, il faut y opposer une fin de non-recevoir et de façon catégorique. Il y a trop de victimes dans ce pays qui ont subi les pires atrocités. Des viols, des vols, il y en a qui ont perdu leur maison, il y en a qui ont perdu leurs parents, il y en a qui sont devenus orphelins, il y en a qui ont perdu leur femme, il y en a qui se sont retrouvés exilés, il y en a qui se sont retrouvés déplacés. Et il faut faire la somme de ces atrocités-là pour comprendre que l'amnistie est malvenue, aujourd'hui malvenue dans ce pays. L'amnistie. Parce que si on pense aux victimes, eh bien l'amnistie est malvenue dans ce pays.
L'amnistie est malvenue, pas de place pour l'amnistie. Est-ce que vous partagez cet avis, monsieur Christian Guénébem?
Avant de répondre à ça, je voudrais revenir sur la question de 104 revendications. Est-ce que c'est un chiffre irrationnel, rationnel, qui fait peur ou pas? Encore une fois, je reviens sur la communication et je m'interroge. Quel est l'objectif recherché lorsque nous communiquons? Est-ce que nous avons pour but de faire peur aux Centrafricains? Est-ce que nous avons pour but de créer un climat anxiogène dans lequel les gens ne se sentiraient déjà pas en sécurité avant même qu'on aille au dialogue? Sommes-nous en train de vouloir préparer l'esprit des gens à l'échec des négociations? Parce que je ne comprends pas. Le dialogue, c'est une posture. Si les groupes armés étaient venus avec 4000 revendications, ça fait quoi? Ils ont en face d'eux un gouvernement qui va discuter. Et avoir une revendication ne dit pas qu'on obtient gain de cause. C'est un point de discussion qu'on met sur la table et on va discuter.
C'est justement parce qu'on vient avec un objectif, on met la barre haute pour obtenir ce qu'on
veut
obtenir.
Mais alors, si vous-même vous avez compris cela, vous savez qu'en réalité, ils n'ont pas 104 revendications. Ils en ont une quinzaine à tout casser. Et le reste, c'est de l'habillage.
Et dans l'amnistie, justement.
Oui, mais j'en viens.
C'est une épineuse question.
Et c'est encore là où je reviens sur votre question, la question de communication. Pourquoi vous insistez tellement sur ce point-là, qui n'est que l'un des 12 points non négociables?
Mais c'est là où
je vous en prie, laissez-moi parler.
Allez-y, s'il vous plaît.
Sur les 12 autres points, il y a des points d'autant plus fondamentaux, même capitaux. Ne pensez pas que je me défile, je vais répondre à l'amnistie. Mais moi, quand on parle ici de la forme de l'État, de la révision de la Constitution, c'est des questions fondamentales sur lesquelles vous n'appuyez pas. Je me demande encore quel est l'objectif que vous poursuivez. Est-ce que vous avez une communication qui est orientée vers le terrorisme intellectuel? Vous voulez faire peur? L'amnistie, c'est quoi? Le forum de Bangui s'est prononcé. Les consultations populaires à la base, la population, la société civile, les leaders politiques et sociaux. On a quand même une tendance qui se dégage. Et cette tendance, je pense qu'elle est suffisamment forte pour avoir été comprise. Mais de la manière dont c'est martelé, moi je m'inquiète. Et je vais vous dire, j'estime qu'il n'y a pas de sujet tabou. Toutes les questions ont le droit d'être mises sur la table, y compris l'amnistie. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que les groupes armés réclament l'amnistie qu'ils l'ont obtenue. Est-ce que vous êtes allé interroger le président Touadéra ou le gouvernement sur la question de l'amnistie? Est-ce qu'ils vous ont dit qu'eux, ils ont l'intention d'accorder l'amnistie?
Non, on connaît la position du chef de l'État sur la question.
Mais voilà, aujourd'hui,
personnalité politique, vous répondez, donnez-nous votre position.
J'estime que quand on a créé une cour pénale spéciale, ce n'est pas pour accorder l'amnistie générale. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, notamment les auteurs principaux, et j'insiste sur ce terme et je vais faire la dissociation, les auteurs principaux des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou peut-être des crimes de génocide, il restera à la justice à le prouver, qui doivent être jugés. Mais après que vous ayez jugé ces gens-là, qui seront au maximum 10, 12, 15 personnes, vous faites quoi des 25 à 30 000 autres combattants qui n'étaient pas les auteurs mais les exécutants? Vous en faites quoi? Vous allez les juger dans quel tribunal? Vous allez les mettre dans quelle prison? J'estime que nous devons être réalistes, rationnels, mettre la vérité sur la table et cesser de communiquer pour faire peur aux gens. Aujourd'hui, dans le kilomètre 5, on estime qu'il y a plusieurs centaines, voire quelques milliers de combattants. À Kakabandoro, à Boerab, à Gobongo, à Boali, à Bosembélé, à Batangafo, tous ces combattants-là, qu'est-ce qu'on en fait? Ce n'est pas pour rien, et je parle ici sous le contrôle de Maître Ndjapou, qu'on a mis sur pied les mécanismes de justice transitionnelle, voire même traditionnelle. Et à mon humble avis, l'amnistie peut être envisagée, mais c'est une amnistie sélective qui ne va pas concerner les auteurs principaux de ce que nous sommes en train de vivre, mais qui peut concerner le combattant lambda. Parce que ces gens-là...
Dans le document, il parle de loi d'amnistie générale.
C'est pour ça que j'ai dit que c'est une posture de négociation. C'est pour ça que j'ai dit que vous devez communiquer de manière à expliquer les choses clairement. directement aux gens.
Mais quand vous, vous devez communiquer, la communication relève, n'est-ce pas, de la responsabilité d'abord
des journalistes, des acteurs,
d'abord de l'État, qui doit passer le bon message.
Mais moi, je suis un homme politique. Je suis un porte-parole d'une formation politique. Et je vous dis que, de manière rationnelle, réaliste, vous n'allez pas juger à la CPS 30 000 combattants. C'est faux. Il faut dire la vérité aux gens. Alors, la vérité, c'est que nous voulons que les auteurs principaux rendent des comptes. Mais ces auteurs principaux ne sont pas 40 000. Ils sont 10, 15, 20, qu'ils aient agi sur le terrain politique ou qu'ils aient agi sur le terrain militaire. Ces gens-là doivent être concernés. Mais que pour le reste, le combattant lambda, le centrafricain lambda, ceux-là, il faut envisager d'autres mécanismes de réinsertion. Et que la question la plus importante après cela, c'est ce qui va venir dans une autre question, je l'ai vu ici sur le document, c'est la question de réparation des victimes.
Ça va venir.
Et c'est ça qui doit faire la différence entre ce processus de paix et les processus que nous avons connus dans le passé. Parce que dans le passé, on s'est arrangé à trouver les conditions d'un cessez-le-feu. Pas des conditions de paix, les conditions de cessez-le-feu, d'arrêt des hostilités, sans jamais nous préoccuper de ceux qui avaient souffert dans les différents conflits. Aujourd'hui, il est grand temps que le gouvernement, que je n'entends pas suffisamment sur cette question, que le gouvernement prenne le leadership aussi de la question de réparation pour les victimes. Que le gouvernement prenne le leadership aussi de la question du retour des personnes déplacées et réfugiées, de leurs indemnisations. Ils ont perdu leurs biens, leurs maisons, ils ont perdu leurs proches, nous avons perdu nos proches. Mais qui se préoccupe de ça aujourd'hui dans le mécanisme de réparation? Je crois que c'est ça aussi qui est important.
Merci Christian Guinebem. Maître Fernand Sylvain Mbandé-Diapo, vous avez compris le raisonnement développé par M. Christian Guinebem. Admissible, oui, mais de manière sélective. Est-ce que vous partagez cela?
Merci beaucoup, mais je pense que en ce qui concerne l'amnistie, selon le forum de Bangui, tout le peuple a dit l'impunité zéro, il ne faut pas amnistier les gens. Et la question qui se pose dans nos échanges avec ces quelques partenaires, je pense, c'est le même argument que l'autre là en train de développer, et mon frère Nguerebem, qui touche également à qui on peut amnistier. Et je sais que le mandat de la Cour pénale spéciale, c'est pour juger des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide. Dans la feuille de route, lorsque vous allez voir en page 6, ils ont dit dans les principes directeurs la prise en compte de la présomption d'innocence de tout individu soupçonné de commettre des crimes graves tant qu'il n'aura pas été jugé coupable par une juridiction compétente en la matière. Ça, c'est dans la feuille de route. C'est là où je me suis dit qu'il faudrait qu'on analyse. Et là, je me suis dit pourquoi la feuille de route n'a pas tenu compte de prise en compte de la responsabilité du supérieur hiérarchique qui touche à ces chefs de guerre. Réellement, la prise en compte de leur responsabilité, la responsabilité du supérieur hiérarchique. Donc, c'est important qu'on touche. L'amnistie, le peuple déjà a dit non. Nous ne voulons pas d'amnistie. Il y a plusieurs lois d'amnistie. Ceux qui ont commis des crimes doivent répondre de leurs actes. Même si nous savons que la Cour pénale spéciale ne va pas tout juger, mais c'est vrai, pour la loi d'amnistie, nous refusons. Donc, en cela, c'est pour cela que je me suis dit, c'est au peuple aussi de réfléchir là-dessus. La position de la société civile, pas question d'amnistie, selon le respect des résolutions ou des recommandations du forum de Bangui. Mais si, il faudrait qu'il y ait un débat, que le gouvernement accepte qu'il y ait un débat ouvert concernant ces cas. Certains auteurs, auteurs complices vont être jugés par la Cour pénale internationale, d'autres par la CPS, mais on sait que la CPS ne va pas tout juger. Soyons honnêtes là-dessus, on n'a pas des prisons, on n'a pas ceci, la situation, il faut qu'on soit clair. Et l'autre aspect, c'est les tribunaux ordinaires. Et voyons quoi, la situation de nos tribunaux. L'autre aspect que j'aimerais également toucher par rapport aux revendications des groupes rebelles. Ils ont parlé, ils veulent leur prise en compte, leurs avantages, mais je me suis dit, c'est les 14 groupes rebelles qui ont détruit les écoles, les hôpitaux, les palais de justice. La gendarmerie, nos institutions, c'est eux qui ont détruit cela. C'est à eux de chercher à réparer. C'est pas l'État, ce sont ces groupes rebelles. Ils doivent réparer ce qu'ils ont commis comme gaffe pour détruire ce que l'État a construit ou les partenaires ont construit. Ils ont tout détruit. Réellement ça, ça satisfait quand même. Ça soulage le peuple. Eux-mêmes qui ont détruit l'école, ils réparent l'école, ils arrangent l'école. L'autre aspect également, est-ce que les rebelles peuvent doivent aussi demander pardon aux victimes? Si on parle du processus de justice transitionnelle soulevé par mon frère, il doit venir avoir le courage de venir demander pardon aux victimes et à la population centrafricaine pour des actes ignobles, des actes irresponsables qu'ils ont commis sur cette population. L'autre aspect aussi, ils doivent aussi, si ce sont des vrais rebelles ou des vrais chefs rebelles, ils doivent aussi être courageux et venir devant la justice eux-mêmes pour répondre de leurs actes. Et ça, je les encourage. Ils doivent venir devant la justice pour eux-mêmes se rendre. Vous savez, il y a certains, ils doivent être courageux parce que c'est dit, t'es rebelle, moi je suis responsable de mes actes, je commets des fautes, je reviens. Et réellement, en tant qu'un vrai chef de l'État, doit dire, je n'ai pas peur de la justice, je viens me présenter devant la justice de mon pays. Mais l'autre aspect qui me choque, c'est que au Khartoum, on dit le rassemblement centrafricain. Pour Khartoum, ils ont parlé de rassemblement centrafricain, ce qui a été soulevé
par M. Wafio. Mais l'autre aspect qui m'insulte, c'est que ça a été même signé par Aline Daras. Est-ce que c'était les Centrafricains? Pourquoi on a dit Rassemblement Centrafricain? Un groupe, lui aussi, il a signé. Est-ce que vraiment il faut voir le terme Centrafricain? L'identification de nous? On ne néglige pas ça. Donc, ce sont des parenthèses. Ouais. Mais pour l'amnistie, la position de la société civile, Agnette, on ne veut pas qu'il y ait l'amnistie. Il faut juger tous ces gens, les arrêter, même si c'est dans le cadre de processus de paix, mais ils doivent répondre de leurs actes.
Merci Maître Mandejapo, président Jean-Serge Wafio. Voilà, le sujet fait polémique, hein, deux tendances se dégagent. Amnistie, mais procéder cas par cas, mais amnistie, pas question. Alors, comment trancher?
Bon, y a rien à trancher. Non, là, tout est organisé. Si vous voyez les 12 revendications non négociables, elles sont agencées autour de l'amnistie. Mm-hmm. Sans l'amnistie, celle ne sera pas applicable. Soyons sincères. Il y a déjà ça, un. De deux, à qui profitera l'amnistie? Ne voyons pas tout simplement les chefs de guerre ici, ne voyons pas tout simplement les exécutants. Qui sont les commanditaires? Mm-hmm. Soyons conséquents. Qui sont les commanditaires? Aujourd'hui, qui sont les commanditaires? Nous sommes posé cette question. Nous avons essayé de comprendre, nous nous sommes rappelés beaucoup de choses. Bozizé, quand je me rappelle le 24 mars, le dimanche 24 mars.
2013.
Au Palais de la Renaissance, il est en train de remettre les 5000 francs hebdomadaires pour les éléments de sécurité. Il a reçu un coup d'appel et on lui a dit qu'il a 30 minutes pour quitter Bangui. Qui l'a appelé? Pour lui dire qu'il doit quitter Bangui dans 30 minutes. Il a abandonné les éléments, il est parti prendre sa mallette, il a pris un véhicule, il a contourné ce décap pour aller au camp de Roux et prendre l'hélicoptère et partir. Ça, nous, Centrafricains, nous devrons savoir qui lui a passé ce coup de fil. Mm-hmm. Pour lui dire de tout abandonner, pouvoir, puissance, armes, ce sont les armes
et peuple.
Du peuple que les Séléka ont prises pour tuer le peuple. Ça aussi, il faudrait qu'on soit conséquent. Le Centrafricain doit savoir. On peut amnistier. Il y aura toujours des amnisties. On a vu avec la première, la deuxième guerre mondiale, on a jugé les principaux responsables. Ceux qui ont commis les crimes les plus exécrables, on les a appelés, mais les autres, on les a casernés quelque part pour faire un lavage de cerveau. Après, on les a léchés en pâture et on a retrouvé tous les éléments en Argentine, en Bolivie et autres là-bas. Ce qui est certain, ces mercenaires qu'on nous a importés, c'est pour qu'à la fin, ils deviennent des Centrafricains. Ça, il ne faudrait pas qu'on perde ça de vue. Ils sont là pour être des Centrafricains et tout est agencé pour qu'ils deviennent des Centrafricains. Et allons au-delà de ces revendications. Allons au-delà. C'est pour cela que j'ai dit qui sont derrière ces groupes. Et ça, nous, Centrafricains, nous devrons chercher à le savoir. Et nous devrons le savoir. Si nous ne crevons pas l'abcès, ça ne sert à rien. Nous pouvons faire ce genre d'émission à longueur d'année. Il n'y aura pas d'alternative. C'est à nous maintenant de dire, regardons-nous en face. Qui a appelé Bozizé pour dire qu'il doit partir? Et il est parti. Djotéda était arrivé. Il n'a pas maîtrisé ces éléments, parce qu'il y avait quatre groupes différents. Et chaque élément de chaque groupe répondait à son chef. Et aujourd'hui, on retrouve la même situation avec MINUSCA. Les contingents de la MINUSCA n'obéissent qu'à leurs états-majors nationaux. Aujourd'hui, la coordination au niveau de la MINUSCA ici, ça flotte. Oui. Et on a retrouvé tous les officiers français de Sangaris qui sont reversés aujourd'hui dans tous les commandements opérationnels de la MINUSCA. Et derrière tout ça aussi, il faudrait qu'on se pose des questions. Nous, en Afrique, il faudrait qu'on se pose des questions. Il n'est pas question de dire amnistie cas par cas, mais là, c'est bien dit.
Loi d'amnistie générale.
Loi d'amnistie générale. Et tout est agencé autour de l'amnistie. Sans l'amnistie, les autres recommandations ne pourraient pas s'appliquer. Donc l'amnistie, c'est le point focal ou c'est le déterminant ou c'est le fondamental des actions de ceux-là.
Parce qu'il faut d'abord les amnistier pour qu'ils soient responsabilisés dans l'État, dans la primature, dans les postes de
responsabilité.
Justement, je
rebondis
sur la question. Je veux maintenant poser la question
à Christian Guérébem. Ce que vous dites n'est pas vrai. La dernière affirmation n'est pas vraie.
Oui.
Vous savez, dans tout ce qui se passe là, moi j'aime bien mettre l'accent sur la bonne communication. Par exemple, tout à l'heure, on s'était élevé ici autour de cette table sur les revendications de partage de pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement d'union nationale, etc. Je suis désolé. Ils n'ont pas besoin d'être amnistiés pour être au gouvernement. Le chef de groupe armé, RPRC, il est actuellement ministre de l'énergie. Il y a 3 représentants de l'ancienne Séléka et 2 représentants des anti-Baraka actuellement au gouvernement. Le gouvernement d'Union nationale, il existe déjà. C'est pour ça que moi, je me pose la question sur la
c'est
manière dont la... Je voudrais terminer mon propos.
Mais j'ai une question à vous poser.
Oui, mais vous la poserez. Mais moi, je ne comprends pas qu'on oriente la communication de manière à faire croire aux gens que ce qui est en train de venir n'existe pas, que c'est de l'extraordinaire, qu'on va créer quelque chose. Ça existe déjà.
Nous parlons justement de ces rencontres de Khartoum et de Bouar qui ont pour point d'orgue le prochain forum de Bangui et justement les revendications.
C'est pour ça que je vous ai dit que ces revendications, les 104 revendications consolidées, qui d'ailleurs ne vont pas être remises, mais qui ont déjà été remises au chef de l'État. Ces 104 revendications, je vous l'ai dit ici, c'est une posture. Vous avez dit vous-même que les gens demandent beaucoup pour avoir un peu. C'est une posture de négociation. Aujourd'hui, le fait pour eux de revendiquer ne veut pas dire qu'ils l'ont obtenu. Mais vous ne pouvez pas aussi demander à ces gens-là de venir sans revendication. Ce serait de l'utopie. D'accord. Mais il appartient à ceux qui vont être en face de ces groupes armés, aux négociateurs que le gouvernement va envoyer dans ce dialogue, d'adopter une position ferme et de ne pas accepter ce qui est qualifié par d'aucuns d'inacceptable.
Monsieur Renaud,
vous savez, quand on fait une analyse, une situation, je dirais politique, il faudrait qu'on tienne compte d'un certain nombre de facteurs. Moi, je suis centrafricain, nous sommes tous centrafricains autour de cette table. Ce dont nous parlons, c'est une question, je dirais, centrafricaine. C'est une question centrafricaine. La loi d'amnistie, gouvernement d'union nationale, participation des membres des groupes armés au gouvernement, etc. Nous sommes un État ? Oui. Nous avons une constitution ? Oui. Que dit la constitution par rapport aux différentes revendications émises par les groupes armés ? La constitution accepte peut-être 1 ou 2 revendications, mais il y a beaucoup de revendications des groupes armés qui sont incompatibles avec la constitution. Mais si nous considérons que nous sommes un État et que nous avons une constitution qui nous régit dans notre fonctionnement, dans notre organisation, eh bien, on doit déjà commencer à s'interroger. Parce que quand nous parlons de processus de paix, on parle de ce dialogue-là. On fait référence à quoi ? On fait référence aux groupes armés. Mais est-ce que vous savez que les groupes armés n'ont pas d'existence institutionnelle ni constitutionnelle ? Est-ce qu'on est d'accord sur ce principe-là ?
Très bien.
On est d'accord sur ce principe que les groupes armés n'ont aucune existence institutionnelle ni constitutionnelle dans notre pays en tant que République centrafricaine. Ça, c'est déjà le point de départ. On ne doit pas ignorer cela. Si aujourd'hui, on s'est retrouvé dans une situation où le gouvernement doit, c'est pas moi, composer avec les groupes armés, c'est parce que par le passé, comme je l'ai toujours dit, on a pris l'habitude d'accepter l'inacceptable. L'inacceptable, c'est l'émergence, la création, le foisonnement des groupes armés. Depuis les années 90, en commençant par le phénomène de la mutinerie, et ensuite, on est arrivé dans les années 2000 avec le phénomène rebelle, qui s'est poursuivi jusqu'à l'avènement de la Séléka le 24 mars 2013. C'est parce que nous avons pris l'habitude d'accepter que dans l'État centrafricain, qu'il y ait des groupes armés qui naissent, qui évoluent, qui contrôlent une partie du territoire et qui fassent des revendications et que le gouvernement soit amené à traiter avec eux, à négocier avec eux. Autrement dit, on les reconnaît, mais dans un État normal. On ne devrait pas être là aujourd'hui en train de parler d'un dialogue à l'Union africaine, par exemple, avec les groupes armés. Parce que si on était un État normal, eh bien, les groupes armés n'existeraient pas. Et donc, on serait peut-être en train de parler d'autres choses, de l'éducation,
de l'économie,
etc. Mais si aujourd'hui, on a de parler d'une situation qui est institutionnellement anormale. Et donc, les revendications des groupes armés doivent être confrontées par rapport à notre constitution. Parce que si on perd cela de vue, eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont tomber, comme un château de cartes. Ça dit même le président de la République, il tombe comme une carte. Parce que tout simplement, lui, il a une existence institutionnelle.
Merci.
Le gouvernement a une existence institutionnelle. Les groupes armés, non. Donc, il faut que les groupes armés mettent un peu d'eau dans leur vin et qu'ils tiennent compte du fait qu'ils n'ont aucune
existence institutionnelle. Un peu, mais beaucoup d'eau.
D'accord. Merci, monsieur Renaud. Alors, justement, si la proposition d'amnistie des auteurs de crimes venait à être acquise, quel pourrait être le mécanisme de réparation pour les victimes, monsieur Guénébem ?
Je pense m'être exprimé tout à l'heure de manière partielle sur cette question. Mais je voudrais juste vous faire observer que je n'aime pas beaucoup la manière dont la question est posée. Parce que pour moi, qu'il y ait amnistie ou non, que ce soit accepté ou non, il doit y avoir un mécanisme de réparation pour les victimes.
Quelles que soient les conditions.
Quelles que soient les conditions. Donc la question ici n'est pas de dire s'il y a amnistie ou pas. À la limite, ça, on s'en fiche. On est en train de se dire, il y a des victimes. Encore il y a hier ou avant-hier à Bria, il y a des victimes. Quel mécanisme ? Moi, je pense que le gouvernement doit prendre le leadership de la question de la création d'un fonds national d'indemnisation. Que le même plaidoyer qui est fait
pour le financement de la Cour pénale spéciale doit être fait auprès de nos partenaires, auprès de nos amis, pour indemniser les victimes, pour permettre aux personnes déplacées de rentrer chez elles, pour permettre aux personnes réfugiées dans les pays limitrophes de rentrer chez elles, pour permettre à ceux qui ont perdu leurs biens, leurs maisons, leurs véhicules, même leurs vêtements, leur état civil, qui ont tout perdu, permettre à ces personnes-là de se reconstituer. Je crois que c'est ça le mécanisme. Et dans ce sens, il faut s'appuyer aujourd'hui sur les archives de l'Église catholique. Parce qu'en 2014, un travail a été initié de recensement de biens pillés et perdus. C'est un travail qui n'est pas exhaustif, pour la simple et bonne raison que la sécurité sur le territoire national ne permet pas d'aller au bout des choses. Et c'est un travail, comme je l'ai dit, qui a été mené à partir de 2014. Ça veut dire qu'en 2015, lorsqu'il y a eu inversement, c'est-à-dire que les groupes anti-Balaka ont fait reculer la Séléka sur le territoire et que d'autres exactions ont été commises, il faut aussi recenser tout ce qui a été fait après l'émergence de ce mouvement anti-Balaka. Moi, je crois que c'est comme ça qu'on peut envisager la chose. Mais j'insiste sur le fait que amnistie ou pas amnistie, là n'est pas la question. La question, c'est que les victimes, quelle que soit leur communauté, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit la région dont ils proviennent, doivent être indemnisés. Et que c'est au gouvernement de la République centrafricaine de prendre le leadership sur cette question.
Merci, M. Christian Guinebem. Nous allons, n'est-ce pas, faire ainsi le dernier tour de table. D'abord, à vous, M. Fernand Silvomredjapo, à Khartoum, Kesselek et Antibalakan, signé une déclaration d'entente contenant une dizaine d'engagements, dont le respect des droits de l'homme, la protection de la population civile, la facilitation de la libre circulation des personnes et de leurs biens, j'en passe. Croyez-vous aux chances de l'application de ces engagements?
Bon, réellement, avec des engagements, c'est pas pour la première fois qu'ils ont pris des engagements. Moi, j'ai toujours répété que je les encourage aussi à prendre l'engagement pour venir demander pardon à ce peuple, aux victimes, à la population, et à prendre l'engagement aussi de revenir, d'aller eux-mêmes devant la justice pour répondre de leurs actes. Il faut qu'ils soient courageux. C'est-à-dire, c'est déjà une très bonne chose. Moi, c'est de les encourager à revenir. Et ils prennent l'engagement pour reconstruire, réhabiliter les hôpitaux, les écoles, les palais de justice, la gendarmerie et tout ce qu'ils ont détruit.
Avec quelles ressources?
Ils ont des diamants, ils ont de l'or, ils ont volé le peuple, ils ont volé le pays, ils ont commis des crimes économiques, des crimes graves. Il y a un grand business dans ce domaine. Les trous d'éléphants, des bois, des ceci, cela. Mais c'est un réseau de business. Donc là, tu me dis, ils n'ont pas d'argent. Ils ont trouvé seulement l'argent pour acheter des arbres. Hein? Donc pour acheter les arbres, ils ont l'argent. Pour construire les hôpitaux, les écoles, ils n'en ont pas. C'est eux qui ont détruit. Et si aujourd'hui, ils veulent être... Il y a d'autres qui sont au gouvernement. Merci que mon jeune frère m'a rappelé. Et toutes mes félicitations pour ça. Ils sont au gouvernement. Il faudrait qu'ils donnent l'argent. Ils investissent. En tant que chef européen, ils investissent pour construire les écoles, les palais, la gendarmerie, toutes les institutions qu'eux-mêmes, ils ont détruites. Donc là, c'est aussi un des engagements. Mais pourquoi ils n'ont pas mis cet engagement dans leurs revendications? Ils attendent, c'est le gouvernement qui doit construire. C'est ceci qui doit sortir. C'est les partenaires qui ont détruit. Le gouvernement fait des efforts pour construire. Il faudrait qu'eux prennent des engagements. Parce que c'est ça. Là, ils vont savoir que ce n'est pas facile de reconstruire les ponts. On construit les ponts, eux, ils détruisent les ponts. Donc, ce n'est pas tout à fait normal. On construit les écoles, ils détruisent les écoles. Il n'y a rien. Pourquoi? Et ils se disent centrafricains. Et là, c'est du n'importe quoi. C'est pour ça que je demande à ce que, dans ces engagements-là, ces revendications-là, nous demandons au gouvernement d'insister, même si le gouvernement, ensemble avec la communauté, on fait à ce que la société civile n'est pas présente. On leur dit, il n'y a pas de problème. Mais il faudrait qu'ils se défendent pour leur dire, ils doivent construire les écoles, les hôpitaux.
Ça figure ainsi pas dans les 104 revendications.
Et je suis très content parce que je sais que ce soit leur amnistie ou leur immunité. Tout tard, là-haut, je sais que la Cour pénale spéciale va faire son travail.
Merci, j'ai confiance en cette Cour. Merci, Maître Fernand Silvio Manejapo. Nous allons terminer avec vous, Monsieur Jean-Serge Wafio. La rencontre de Khartoum a recommandé la participation et l'implication des pays partageant la frontière avec la RCA pour la réussite prochaine du dialogue gouvernement-groupe armé. Partagez-vous cette idée.
Avant de répondre à votre question, je voudrais un peu revenir sur le respect des droits de l'homme, la protection de la population civile, la libre circulation. Je me pose des questions. Je me pose sincèrement des questions. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Alors que ce sont ces groupes armés qui entravent la libre circulation des personnes. Ce sont les groupes armés qui tuent. Ce sont les groupes armés qui détruisent les biens privés et publics. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est ça, je n'ai rien compris. Bon, la participation de... Non, en ce moment, le gouvernement devrait déjà remettre ou réactiver les différentes commissions mixtes avec nos États voisins. Tous les États voisins, les 6 ou 7 actuellement, les deux Soudans, le Tchad, le Cameroun, les deux Congo, le gouvernement devrait déjà réactiver les commissions mixtes. Et c'est à travers ces commissions mixtes qu'on traite les problèmes frontaliers. Aujourd'hui, nous déversons des milliards par mois à Garamboulaye, à Kenzo, à
Mbaye-Mbom.
Nous déversons des milliards par mois, mais nos compatriotes souffrent. Alors, c'est à travers ces commissions mixtes que nous devrons traiter ce genre de problème. Aujourd'hui, il y a Ebola qui est en train de partir de
RDC,
là-bas pour le long de l'Oubangui pour arriver à Bangui. Ça aussi, c'est à travers ces commissions que nous devrons traiter ce genre de problème. Les armes, les véhicules, le carburant qu'on donne aux groupes armés entrent par le Soudan, entrent par le Tchad, entrent par le Cameroun. C'est à travers ces commissions que nous devrons traiter ce genre de problème. Donc, il est fondamental, il est même primordial que le gouvernement remette ou réactive ces commissions mixtes pour nous permettre de traiter ces problèmes frontaliers.
On n'a pas seulement besoin de les attendre autour de la table avec le panel de l'Union africaine.
Pas forcément.
Merci, Président Jean-Charles Wafio.
Oui, Christian Kenembe. Je crois que ce que le Président Wafio dit est fondamental. Et cela relève du bon fonctionnement de l'État en lui-même. C'est-à-dire que nous avons des questions de frontières. Aujourd'hui, nous savons par exemple que la frontière du Congo-Brazzaville se trouve à moins de 10 km de la SCAD maintenant. Est-ce que vous le savez? La SCAD, ici à Mbaye, la frontière du Congo-Brazzaville est à moins de 10 km. Comment on explique cela?
Dans les 5 à 6 km.
Oui, 5, mais j'ai dit bien moins de 10 km. Nous savons aussi que la zone tampon à Garamboulaye est investie par les autorités camerounaises. C'est des questions qui relèvent de la commission mixte. Ça, je suis d'accord. Mais là où je vais légèrement différer, c'est que sur les questions de processus de retour de la paix, et notamment pour traiter les groupes armés, nous ne pourrons pas faire l'économie de discuter avec les pays voisins qui servent de base arrière. Dans le ravitaillement en armes, en hommes, en munitions, en carburant, en véhicules, prenez un pays comme le Tchad. Moi, je vais m'appuyer sur la déclaration du ministre de la Sécurité publique il y a quelques semaines devant l'Assemblée nationale, lorsqu'on nous a fait état d'un regroupement de groupes armés à Kakabandoro, et où il est venu à la tribune devant l'Assemblée nationale pour dire que, informés de ce qu'un mouvement se faisait de Tchad vers Centrafrique, ils ont saisi les autorités tchadiennes pour leur demander d'intercepter ces gens-là. Et que malheureusement, les autorités tchadiennes ont dit, bon, ils ont eu l'information trop tard, ils n'ont pas pu intervenir. Mais la question est la suivante. La frontière, elle est fermée depuis plusieurs années, la frontière terrestre. Comment ces gens font pour traverser? Donc, nous ne pouvons pas aussi, de manière tout à fait sereine et de manière tout à fait objective, envisager de mettre un terme à l'activité des groupes armés sans nous être entendus avec les États qui leur permettent de traverser. Même s'ils nient un quelconque soutien, nous pouvons au minimum leur reprocher une certaine forme de laxisme dans la gestion des décisions qu'eux-mêmes ont prises, puisque la frontière n'est pas fermée par les autorités centrafricaines, elle a été fermée par les autorités tchadiennes. Donc vous voyez, c'est un processus compliqué. Et il faudrait que nous ayons le courage d'aller au-delà de nos sentiments ou de nos ressentiments, parce qu'ici c'est de cela qu'il s'agit, mais pour traiter de manière tout à fait lucide ces problèmes. Que ce soit dans le cadre des commissions mixtes, parce que l'État doit fonctionner normalement, mais que ce soit aussi de manière ponctuelle, à travers des tables rondes, soit de dialogue, de négociation pour le retour de la paix, je pense que les deux ne sont pas incompatibles.
Merci à vous, M. Christian Guédébé, fin de ce débat sur Radio Ndekeloka. Merci à tous nos invités ici présents, qui, je le rappelle, étaient M. Jean-Serge Wafio, président du PDCA et coordonnateur du Conseil des leaders politiques et sociaux, M. Christian Guédébé, secrétaire national aux relations extérieures, porte-parole du parti KNK, Dr. Dominique Désiré Irénan, il est ancien chercheur à l'Université de Bangui, constitutionnaliste, et Maître Fernand Silvio Manidjapou, coordonnateur de la coalition pour la Cour pénale spéciale, un leader de la société civile. Merci à tous d'avoir suivi ce débat. Herman Namouna, la technique, Hippolyte Marbois, l'animation, vous donne rendez-vous samedi prochain pour une autre thématique.